Bonjour, c'est Cédric. J'espère que tu vas aimer ce nouvel épisode d'Outils du Manager. Si les idées dont je vais te parler te plaisent, tu auras peut-être envie de passer à l'action. Pour ça, j'ai créé une série de mails spécifiques en lien avec le sujet de ce jour. Pour recevoir cette série, il suffit que tu cliques sur le lien en descriptif. Je t'en reparle en fin d'épisode. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on parle de coaching, de disque, de harcèlement, de burn-out. Je suis Cédric Watine, vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. En fait, j'ai rencontré Élodie Bancelin par l'intermédiaire de Thierry Le Riche. Thierry Le Riche est déjà venu sur le podcast et c'est la personne qui a développé les tests disques que vous passez quand vous venez sur le site Outils du Manager. C'est pas moi qui les ai programmés, j'ai aucune prétention en la matière. Et donc je me suis associé avec Thierry pour pouvoir vous proposer des tests disques spécifiques pour Outils du Manager. Mais revenons à Élodie. Élodie Bancelin, c'est une coach, elle est installée à son compte. Et donc elle travaille pour des cabinets de recrutement, pour des entreprises et en particulier dans le milieu du management. Et elle propose des prestations de coaching. Et ce qui m'intéressait en rencontrant Élodie, c'était un petit peu d'avoir son avis sur cet outil qu'on utilise aussi beaucoup chez Outils du Manager, qui est le profil disque. Vous verrez qu'en fait, on est un peu parti dans toutes les directions, qu'on a abordé effectivement le disque, mais aussi le coaching, mais aussi la position délicate des managers quand ils se retrouvent coincés entre la hiérarchie et leurs collaborateurs. On a parlé de burn-out, on a parlé de harcèlement. Bref, une conversation passionnante avec Élodie que je vous propose tout de suite. Bonjour Élodie.
Bonjour Cédric.
Comment vas-tu ?
Merci. Ça va bien.
Bon,
contente de te rencontrer vraiment.
Oui, je crois que tu es une auditrice d'un petit peu d'Outils du Manager. Tu as déjà écouté quelques podcasts.
Oui, et surtout le dernier que j'ai beaucoup aimé avec Charles Pépin.
Ah ouais, génial. Ouais, Charles Pépin, j'adore. Ses bouquins sont géniaux. Il est super conférence et en plus, il est très, très sympa. Aussi, quand on l'a en direct sur le podcast. J'ai vraiment passé un excellent moment avec lui. Écoute, ce que je te propose pour démarrer, c'est un petit peu de dire qui tu es et puis ce que tu fais dans la vie.
Ok, donc tu m'as bien présenté, Élodie Bancelin. Je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi consultante et formatrice en entreprise.
D'accord.
J'interviens sur le sujet des soft skills, ouais. Donc tout ce qui va parler des comportements et des relations. Mmh. J'ai aussi co-conceptrice avec donc justement Thierry Le Riche sur la plateforme Profil 4, mmh. puisqu'on l'a optimisé ensemble, on travaille sur pas mal de projets en commun. Mmh. Donc lui est fan de développement personnel, mais c'est vraiment plus la technique. Et moi, ça va plus être le contenu et l'approche du disque en formation et en coaching.
Tout à fait. Donc Thierry,
et à côté de ça,
je t'interromps deux petites secondes. Thierry, on l'a aussi eu sur le podcast.
Oui, je sais.
Il y a quelques temps, et effectivement, ce qui nous a mis en contact, c'est notre intérêt pour le disque. Et en fait, quand vous passez un test sur le disque, sur le site, eh bien, c'est son logiciel en fait qui tourne derrière. Voilà.
Exactement.
Pour être très clair. Pardon, je t'ai interrompu du coup.
Ah non, il n'y a pas de problème. Et puis la dernière chose, j'ai aussi. Co-écrit un livre sur le disque, justement, parce que grâce à la plateforme, c'est vrai que je l'utilise énormément. On a fait beaucoup de changements avec Thierry. Mmh. Comme je suis vraiment, j'affectionne particulièrement cet outil, les éditions Larousse m'ont permis d'écrire un livre qui s'appelle « Pourquoi on ne se comprend pas ?»
Génial.
La méthode pour mieux communiquer. Bon, il devait sortir en avril dernier, vu le Covid. Changement de contexte, il sortira en janvier prochain.
Génial.
Voilà.
Tu pourras peut-être revenir pour nous décrire ton livre. Là, c'est un peu tôt peut-être, mais enfin, notez dans vos agendas, ça sort en janvier. Ok. En fait, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est le coaching. Parce que chez Outils du Manager, on a une définition du coaching qui est spécifique. On n'a pas inventé le concept, très clairement. Et chez Outils du Manager, en fait, le coaching, c'est le troisième outil fondamental qu'on utilise pour manager. J'en ai assez parlé dans les podcasts, mais je pense qu'on n'a pas forcément tout à fait la même définition. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir ce que c'est que le coaching et grosso modo comment ça marche, en fait.
Ok. Bon, je pense que ça va être quand même complémentaire à ce que tu dis dans tes podcasts, hein, parce que moi, je t'ai déjà écouté. Sachant que moi, j'interviens beaucoup pour des professionnels, même ouais. si je fais un peu de reconversion. Oui. Donc, pour moi, en fait, le coaching, c'est quoi exactement ? C'est un accompagnement qui peut être individuel ou collectif, mm-hmm. Qui a en tout cas pour but d'aider une personne ou un groupe, si tu veux, à atteindre un objectif ou des objectifs. Donc ça se fait sur un temps bien défini. Ouais. On pourrait même revenir un petit peu en mode les fondamentaux du management, parce qu'on va être sur un objectif qui va être SMART.
D'accord.
L'idée, c'est vraiment de le fixer, se dire, bah voilà, il est spécifique, où, quand, quoi faire avec, voilà, dans l'atteinte de cet objectif. Mm-hmm. Et on va être vraiment précis, parce D'accord. que ça peut même être un sujet de l'ordre, disons, de la confiance en soi, mm-hmm. qui pourrait paraître difficile à rendre concret.
Ouais, carrément.
Là, si on le pousse quand même. Dans quelle situation, par exemple, la personne rencontre des difficultés de confiance en soi, ou est-ce qu'en fin de compte, elle veut montrer qu'elle a plus d'assurance et se conforter aussi, être plus à l'aise. Mm-hmm. Donc tout ça, on va décortiquer pour que l'objectif il soit le plus clair possible et qu'effectivement, on ait des étapes intermédiaires pendant les séances.
D'accord, ok. Voilà, donc en fait, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est déterminer l'objectif
ouais.
de la personne ou du groupe. Et tu vas Exactement. Le faire de manière très très précise. C'est-à-dire que tu vas obliger quelque part la personne à vraiment se poser la vraie question oui. pour être capable de vérifier quand elle aura atteint son objectif. Parce que c'est vrai qu'en général, on dit « bah ouais, moi je manque de confiance en moi, comment je peux faire pour avoir une meilleure confiance en moi ?» C'est vraiment Exactement. Le début de la réflexion. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances, ouais. etc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
C'est comme quand il y en a qui arrivent et me disent « je veux changer de vie », oui, c'est un peu large, je veux changer de métier, mais c'est toujours pareil, il faut pousser. D'accord. Donc la recherche de l'objectif est assez longue, ouais. mais en même temps, elle est hyper intéressante parce que c'est là qu'en fait, on pose les vraies questions à notre coaché. Et souvent, l'objectif qui s'est fixé au départ, en venant en séance, en se disant bah, « voilà, je vais voir un coach, en tout cas, je suis dans cette démarche-là mm-hmm. d'évolution », on se rend compte que l'objectif, c'est pas celui-là au final.
D'accord.
Ouais. Donc, c'est par l'échange qu'on va le construire ensemble et les étapes vont se faire en fait de séance en séance et on va affiner et on va arriver à son objectif pour justement qu'il l'ait atteint.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Et alors, est-ce que, parce que du coup, je pense qu'en fait, les objectifs, en gros, c'est de la résolution de problèmes. Moi, il y a toujours une question que j'aime bien creuser à chaque fois que j'ai un professionnel qui intervient beaucoup auprès des managers. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. C'est quoi, en fait, en ce moment, les problèmes des managers ? C'est quoi, en fait, les problèmes que tu rencontres le plus avec des managers ? Je sais que tu fais du coaching, pas ouais. forcément avec des managers, pas forcément dans le contexte uniquement professionnel. Moi, c'est clair, hein, ce qui va m'intéresser, c'est plus au niveau du manager, c'est-à-dire la personne qui est en charge d'une équipe.
Ouais. Alors, en ce moment, puis j'ai envie de te dire, ça fait déjà quand même quelques temps. Ouais. Moi, je m'occupe pas mal des middle managers qui sont coincés un peu entre les strates. Ouais. Alors, il y en a une qui revient souvent, c'est le fait de réussir en fait à prendre cette place de manager, réussir sa prise de poste quand on est dans une équipe où on a été collaborateur.
Ah oui, c'est clair.
Donc ça, c'est plus comment je m'affirme, comment en fin de compte, cette promotion, si on veut, elle est légitime. Et comment justement je vais les cadrer, sachant que je connais ces individus-là qui étaient avec moi. Mmh. Et justement, je pense que ça, c'est une des grandes difficultés.
Ouais.
Après, j'ai d'autres exemples comme gagner en confiance en soi aussi, mmh. parce qu'on a été fragilisés. Moi, je récupère aussi pas mal de personnes qui ont eu des burn-out, qui reviennent en entreprise ou qui changent d'entreprise, mais là, ils sont accompagnés. Donc, je dis burn-out, mais ça peut être aussi du harcèlement, parce que là, récemment, j'ai plutôt du harcèlement moral.
Ah oui, d'accord.
Donc, ouais. Donc comment regagner la confiance en soi, en les autres, parce que de toute façon ça commence toujours par un approfondissement des connaissances pour le coacher. Hein. Mmh. En fait nous on est là pour être un soutien, mais lui il va comprendre ses talents, ses zones de performance, tout ça. Mmh. Donc ça va être un travail qu'on va faire ensemble pour justement le renforcer lui. Mmh. En passant par lui, forcément après on va pouvoir travailler avec l'autre.
Mmh. D'accord. Ok.
Donc ça c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'intervenais aussi pour un cabinet qui était très compliqué, un cabinet dentaire,
ouais.
où, gros cabinet quand même, ils sont 19, mmh. ils intégraient une 20e personne, et les médecins, chirurgiens, qui sont associés, des difficultés en fait dans le CODIR, donc là c'est plutôt rétablir une situation managériale efficace, mmh. on va dire même qui... Ouais, rétablir un échange pour que ce soit dans la construction et voir même si on ne fait pas un accompagnement stratégique.
D'accord.
Comment on réoriente ce qu'on dit ? Est-ce que tout le monde y reste ? Enfin, voilà.
D'accord.
Comment retrouver sa place, s'affirmer ? Donc, ça sera plus le groupe.
D'accord. En plus, avec un contexte où les personnes ne sont pas forcément très formées au management.
Exactement.
Qui ont été formées un tas de choses, mais qui n'ont pas forcément...
Qui ont le savoir sur pas mal de domaines, mais qui, dans les relations humaines, c'est assez complexe.
Ouais, ils n'ont pas
C'est un peu ce que je rencontre. Ouais.
Pas d'outils managériaux, en fait. En fait, ce n'est pas évident. Hein, les gens qui ont une grosse expertise ont du mal, en général, c'est assez marrant, à percevoir que le management, c'est une autre expertise. Et que ce n'est pas parce que tu as une grande expertise d'un côté que forcément tu as une très grande expertise de l'autre, surtout en matière humaine. Et ouais, je partage tout à fait le constat. Et je trouve que c'est souvent plus difficile avec des gens qui ont assis leur personnalité, leur autorité sur leur expertise. Parce qu'en fait, ça veut dire que je vais devoir apprendre quelque chose de nouveau. Et voilà, le switch, il n'est pas toujours facile à faire. En général, il se fait après avoir eu des échecs cuisants et avoir détruit pas mal de... Soit de confiance en soi ou soit d'autres personnes au passage, quoi. C'est clair.
Là, c'est là où on arrive, la frontière entre expert et manager expert ou manager leader. En fait, on voit vraiment la différence aussi, comme quoi il faut vraiment intégrer les deux.
Oui, tout à fait.
Donc, oui.
Ouais, alors, moi je fais carrément une séparation entre les deux. C'est-à-dire que moi, je dis...
Oui, je pense aussi.
Il y a un moment, je dis non, mais votre expertise, vous allez l'utiliser, ça va être à certains moments. Et moi, je le fais même au niveau temporel. Hein, je leur dis, là, t'es manager, là, t'es expert. Parce que tant qu'on n'a pas expérimenté la partie manager sans l'expertise, c'est difficile de saisir en quoi ça consiste la partie manager.
Complètement.
Voilà. Alors,
Et puis dans l'activité d'un manager, on sait très bien que c'est séquencé aussi. On n'a pas la même posture en fonction des situations qu'on vit, des missions qu'on vit, des tâches qu'on a
Exactement.
À avoir avec son équipe en individuel ou en collectif.
On est bien
Donc,
d'accord.
Ça, c'est pour ça qu'avec le disque aussi, c'est facile d'arriver à réorganiser quelle couleur on va mobiliser au bon moment. Et donc, justement, on travaille tout ça en coaching.
Alors, on va venir au disque, mais avant, j'ai des questions par rapport à ce que tu m'as dit, parce que c'est vraiment intéressant. Et justement, la première chose que tu as citée, hein, le truc que tu sembles rencontrer le plus, en particulier donc, dans la population des middle managers, c'est réussir sa prise de poste dans une équipe où on a été collaborateur. Alors, est-ce que tu as des trucs à nous partager là-dessus ? Moi, j'ai déjà fait une ou deux vidéos là-dessus, mais voilà, moi, je suis assez général hein, dans mes vidéos, puis à chaque fois, je le rattache à des outils. Ça se passe comment, en fait ? Est-ce qu'il y a un process, en fait ?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un process, parce qu'en fait, ça dépend tellement de la personne.
Ouais.
Par contre, je la fais beaucoup travailler sur ce qu'elle est, sur ses zones de talent, mais aussi reconnaître ses limites.
Oui, oui.
C'est hyper important de reconnaître ses limites parce que ça va montrer qu'en fin de compte, là, elle va être authentique, elle ne va pas jouer un rôle.
Ouais.
Elle a des connaissances, elle est montée en compétences là-dessus. Aujourd'hui, on lui fait confiance pour tenir l'équipe. Il faut qu'elle en soit sûre elle-même déjà.
Mmh.
Donc, elle arrive à ne pas douter. Et on l'a pris pour certaines qualités. Et en fait, là où elle estime qu'elle a des failles, ça va être aussi sa force.
D'accord. Ah, c'est intéressant, ça.
Elle va construire son équipe en se disant justement avec beaucoup d'humilité, il y a des choses que moi, je peux apprendre à l'équipe. Donc c'est ça, en fait, l'idée, c'est d'être très sûr de soi sur les compétences qu'on peut arriver à transmettre à son équipe, parce que l'idée d'un manager, c'est quand même de faire monter en compétences aussi ses collaborateurs. Mm-hmm. En tout cas, c'est ma vision à moi.
Mm-hmm.
Et derrière tout ça, donc, de savoir exactement là où on va être un élément moteur pour l'équipe et s'entourer, justement, intelligemment de son équipe, là où on a ses failles.
Mm-hmm.
Je prends souvent un exemple qui est, c'est comme si moi, j'avais fait, par exemple, je sais pas, la danse classique et j'avais toujours cette envie de vouloir être exactement comme ma collègue qui est hyper bonne, qui fait des pointes incroyablement bien. Alors qu'en fait, donc je veux être comme elle, je n'y arrive pas, je lutte, je vais tout le temps dans cette frontière à la limite de me faire mal, l'inconfort. Alors qu'en fait, je n'ai pas vu que mon potentiel, c'était l'endurance.
Mmh.
Et c'est ce que je dis, un bon manager qui se connaît bien, qui arrive à bien trouver sa place, surtout quand on monte dans une équipe, bah c'est de savoir, voilà, je suis bon là, je le reconnais, maintenant il y a des choses que je ne suis pas bon. Donc je serai critiquable.
Ouais.
Mais comment je vais faire pour m'appuyer de cette équipe, des éléments qui sont dans mon équipe pour combler tout ça.
D'accord.
Et faire une équipe beaucoup plus forte.
Ok. Intéressant.
Je cherche pas la perfection, en fait. On va vraiment chercher en se disant...
C'est intéressant, en fait, ce que tu dis au niveau individuel. Je le comprends. En fait, ça donne paradoxalement confiance en soi de reconnaître ses faiblesses.
parce qu'on les assume. Et en fait, quelqu'un qui a confiance en lui, c'est pas quelqu'un qui est bon partout, c'est quelqu'un qui assume qu'il n'est pas bon partout, justement. C'est ça, la confiance, exactement, en réalité.
Et toute la force d'un individu, c'est ça, c'est de tenir dans son point de faiblesse, en fait, la force.
On en parle avec Charles Pépin, la dernière fois, d'ailleurs, un petit peu.
Bah oui, exactement. J'ai beaucoup aimé son intervention sur leadership.
Oui, carrément. Génial. Ouais. C'est-à-dire que le leader, il va chercher chez les autres, en fait, la force qui lui manque. Et en fait, un leader, c'est quelqu'un qui doute. J'ai trouvé ça génial. Et puis, l'autre chose aussi que tu dis qui est intéressante et où je te rejoins complètement, c'est que, en fait, un manager, il n'est pas bon partout. Par contre, son job, c'est de faire que son équipe soit bonne partout. Et comment on fait pour que l'équipe soit bonne? On s'appuie sur les forces de chacun. Et comme on a chacun nos forces, toi-même, en tant que manager, tu vas t'appuyer que sur tes forces. Alors, ça, ok, je comprends et je suis 100% d'accord. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en général, la première démarche, c'est de faire une espèce de constat sur soi-même, nos forces,
un
genre de diagnostic, déjà pour se rassurer, en fait, pour se donner confiance. Ça, c'est, je comprends la partie, je me donne confiance sur le fait que c'est pas parce que je suis manager que je dois être meilleur que tout le monde dans tous les domaines. Surtout pas. Si je fais ça, je me tue. Et je vais faire du mauvais management, je vais toujours courir après des choses que je ne rattraperai jamais. Et en plus, je vais voler à mes collaborateurs leur créativité, voilà, là où ils pourraient m'impressionner, en fait. Faites de vos collaborateurs des héros. Mais il y a un autre aspect, je ne sais pas si tu le rencontres, parce que moi, c'est un truc qui... en fait, on était collègues avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait partie du groupe et on était avec nos collègues et puis peut-être on subissait un management ou pas, hein, d'ailleurs. Mais bref, on était tous au même niveau. Et là, tout d'un coup, pouf, je me retrouve ailleurs quand même. C'est-à-dire que quelque part, est-ce que quand je deviens manager, est-ce que je reste le collègue de mes collaborateurs?
Alors ça, c'est une question qui arrive souvent. Moi, je l'ai vécu aussi parce qu'avant ça, j'ai été 13 ans en agence de pub. Je passais de chef de pub à... chef de groupe, voilà, en montant en directrice de clientèle, conseil. Et je l'ai vécu, ça. Donc, je vois ce que c'est que la difficulté de justement arriver à se positionner et garder ce côté collègue. Alors, moi, je dis toujours, c'est que dès le début, il faut être très clair, il faut mettre carte sur table en disant, voilà, maintenant, j'ai un autre rôle. Ce rôle, il va nécessiter certainement que je mobilise des actions, des choses comme ça qui vont peut-être déplaire, parfois plaire. Donc, j'assume le rôle, en gros, mais on est clair sur la personne dans ce qu'elle est dans sa fonction et dans ce qu'elle est en tant qu'individu. Okay. Après, ça dépend vraiment de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent très facilement à cloisonner, et à arriver à dire à quelqu'un de son équipe, à le dire en tant que collègue, collaborateur, et pas comme un ami.
Ouais.
Voilà. Et c'est tout à fait respecté des deux côtés. Et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Et ça, moi, en les accompagnant, je me suis rendu compte que c'est vraiment des personnalités.
Ok.
Il y en a pour se préserver, il vaut mieux dans ces cas-là se dire on va avoir un rapport, effectivement, plus hiérarchique.
Ouais.
Mais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour moi dans le poste que je prends. Donc, souvent, je leur dis il faut expliquer ça, il faut faire une réunion au départ. Donc, je leur demande comment ils veulent s'y prendre déjà, parce que c'est vraiment eux leur démarche. Et de se sentir à l'aise, justement. D'accord.
Donc
après,
en fait, en gros, je résume, c'est parce que parce que j'aime bien, c'est transformer ça en truc. C'est-à-dire que tu prends la personne, si c'est quelqu'un qui avait une relation auparavant avec ses collègues de collègues, c'est-à-dire juste on travaille ensemble, on n'est pas potes, c'est un type de personne et tu vas le gérer d'une manière. Et puis, il y en a d'autres, c'est le mec qui est copain avec tout le monde ou la fille qui rend service à tout le monde, etc. Et elle, tu vas la gérer autrement. C'est ça? Donc, tu as A et tu as B. Donc, A, j'ai compris, tu le gères en disant, bon, il faut mettre en place une réunion, il faut dire, voilà, maintenant, on n'est plus tout à fait dans la même case, il y a une hiérarchie, je vais peut-être faire des choses qui vous déplaisent, etc., etc., mais moi, mon intérêt et votre intérêt, c'est que l'équipe performe, blablabla. Bla, bla. D'accord, ok. Pour elle, c'est moins compliqué, je suis d'accord.
Ah, pour moi, c'est pour toute l'équipe. C'est une réunion de présentation devant toute l'équipe.
Oui, je comprends.
La personne, elle explique qu'elle prend ce poste-là.
Je comprends que c'est pour toute l'équipe. Mais ça, ça va être facile à faire pour une personne qui, déjà, auparavant, cultivait pas l'amitié dans le groupe. Là où je me pose la question, je sens qu'on va arriver sur le disque bientôt parce que ça correspond à des tempéraments. Mais bref, on va arriver au disque après. Mais Après, tu as des genres de personnes, en fait, elles ont fait leur trou dans l'équipe en étant potes avec tout le monde, en ayant une relation individuelle avec chaque personne, etc. Même éventuellement, hein, parfois ça arrive, en étant solidaire contre la direction, dans certains cas, etc. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cela. Comment ? Parce que les autres, je dirais, tu les rassures sur leur performance, etc. Ensuite, tu dis, bah, maintenant, t'es plus collègue. Ceux-là, ils vont bien comprendre le truc. Par contre, ouais. Effectivement, la personne qui a développé une relation très pote, hein, pour être clair, ou très chaleureuse avec les autres, paf, elle se retrouve côté direction. Ceux-là, ils m'intéressent.
Bah là, pour le coup, tu vas les faire travailler sur ce qu'ils sont eux. Là, vraiment, le manager, il va exprimer sa singularité, il va exprimer ce qu'il est, être le plus authentique possible. Ça va aussi parler du courage managérial. Hein,
ah, intéressant.
Sur ce terrain-là. Ouais. Et donc, c'est comment lui va se sentir justement légitime de recadrer un collègue qui était un de ses amis quand il déconne. C'est une question de posture. On travaille beaucoup ça et l'état d'esprit dans lequel je le fais. Mmh. On peut être amis, aller prendre un café ensemble, même aller déjeuner, voilà, changer les idées, parler de nos vies de famille. Mmh. Sauf que là, à l'instant T, c'est comme si je le faisais avec toi. Je dis, Cédric, il y en a 5 minutes. Je voudrais te parler d'un sujet super important. Il y a une erreur qui s'est passée. J'aimerais pas que ça se reproduise. J'aimerais bien aussi que ce soit clair par rapport à ce que je te dis. Là, c'est vraiment dans le cadre de tes fonctions. Il y a quelque chose qui a déconné. Ça fait une erreur. Si je prends le temps de t'en parler, c'est que c'est pas bon pour toi. Donc, ça peut te pénaliser. C'est pas bon pour l'entreprise. C'est pas bon pour le client.
Ouais, mais t'as vachement changé. On était potes avant. Et là, t'es en train de recommencer. T'es en train de me faire ce que tu reprochais au patron. T'es en train de me le faire. Alors? t'as changé depuis que t'es manager. Franchement, je suis hyper déçu. On avait une bonne relation et là, ça y est, je me fais engueuler. Tu vois ce genre de truc.
Ouais, je vois bien comment il peut dévier tout ça. Là, je dis, mais en fait, on n'est pas sur le sujet de pote ou de quoi que ce soit. Là, c'est là ce que je dis. Je dis, est-ce que tu reconnais l'erreur?
Ouais.
La première chose, on n'est pas là. Et en fait, souvent, ça doit être très court. C'est sur des temps là où on ne peut plus être potes. C'est souvent quand il y a des coquilles, il y a des erreurs ou il y a des demandes qui sont là pour, disons, embêter l'autre.
Ah non, mais quand tout va bien, tout le monde est bon. Hein. Là où on voit les bons, c'est quand ça va mal, c'est clair.
Voilà. Et c'est comment je remets le cadre à chaque fois et je reste professionnelle dans ce qu'on m'a demandé.
Ouais.
Ok. Et de rester sur des faits, bien sûr.
Parce que la personne brille,
en général, ou elle fait basculer l'autre, c'est qu'elle touche sur le sentimental.
Ouais.
Ou sur de l'opinion.
Mmh.
Et la grosse erreur, c'est de dire, attends, là, on n'est plus du tout dans tes ressentis ni rien. Moi, je suis en train de te parler des choses très concrètes.
Ouais.
On revient du concret.
En fait,
clairement.
En fait, chez Optimager, c'est le feedback, en fait.
Oui, bien sûr, on va avoir le feedback.
Toujours revenir sur factuel. C'est-à-dire, il s'est passé ça, c'est telle conséquence, je te demande de changer, je te fais confiance pour changer, je t'aime. Tu fais partie de mon équipe, je t'adore. Et comme je te fais confiance, parce que je te fais confiance et parce que je t'estime, je me sens légitime de te dire que ça va pas. Mais je te fais confiance, tu vas réussir à changer. Bon, c'est facile à dire quand on se retrouve en live dans le truc.
Moi, j'ai vécu, donc je sais très bien ce que c'est aussi. Hein, mais je trouve qu'en fait, on s'en rend compte quand ça a marché une fois, une deuxième fois, une troisième fois, tout d'un coup, en fait, on prend confiance en soi. Cette confiance qu'on a, tout de suite, l'autre, elle l'a. Parce qu'on a mis les limites. Mmh. Tout d'un coup, on devient comme un arbre un peu robuste. Vous allez prendre, vous allez être chahuté, vous allez avoir le vent qui va souffler. Des fois, ça va être super calme et génial.
Mmh.
Mais quand ça secoue, c'est là où les autres, ils essaient de nous chahuter, que ce soit la direction d'ailleurs ou l'équipe.
Ouais, c'est un test.
Mais montrer qu'en tout cas, on est solide et qu'on est ferme et qu'en fait, ce qu'on dit, on le pense, on le suit, on est aligné.
Mmh.
Là, tout d'un coup, ça change. Le regard des autres aussi change. Il est digne de respect. Il est authentique. Il est vraiment comme il est avec nous dans l'intime que dans sa posture de manager.
Il fait pas de copinage, ni avec moi du coup non plus.
Mm.
Moi j'ai un de mes collaborateurs, un de mes très 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 bon manager qui est, on va bientôt parler de 10, qui est profil stable. Et en fait, il me dit, moi ma carrière, elle a commencé à vraiment marcher, j'ai vraiment trouvé ma place le jour où je me suis dit, alors c'est sa manière de l'exprimer, je suis pas là pour être aimé. Alors, c'est un peu violent quand il le dit. Il le dit d'autant plus violemment que pour lui, ça a été une grosse révélation. Donc, je lui dis, en fait, vous êtes sûr, vous n'avez pas envie d'être apprécié. Il me fait, si, apprécié, mais pour ma justesse et ma justice, pour le fait que je sois juste, plus que parce qu'on m'apprécie comme personne, etc., parce que je me suis rendu compte que ce n'était jamais une bonne recette. Ouais. Voilà, je ne suis pas là pour être aimé. Bon, c'est ce qu'il se dit. Ce n'est pas évident pour un S de faire ce chemin.
Ouais, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, ça me fait penser, c'est moi, je leur donne souvent la, ceux que j'accompagne, le modèle de parent. Et je leur demande quel est le parent qu'ils aimeraient être, comment ils s'expriment. Et souvent, le parallèle, il est facile et ils arrivent à se mettre dans cette démarche-là en se disant j'ai une équipe. C'est exactement comme si j'avais des enfants, même si on n'est pas du tout dans cette posture-là, hein, de parent, enfant et tout. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? On veut le meilleur. Déjà, un, on aime son équipe, c'est hyper important. Faut aimer son équipe, faut aimer toutes les personnes de son équipe. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on a tous une faille. Il y a un moment, pourquoi on ne s'entend pas avec un tel ou un tel? Il y a quelque chose derrière. Donc, si on apprécie son équipe, il y a de grandes chances qu'on arrive à faire des synergies et des bonnes. En tout cas, de bien gérer les projets ensemble. Donc, comme un parent, il y a un moment, on remet le cadre. Remettre le cadre, c'est pas pour autant qu'on n'est pas aimé, pas apprécié, qu'on fait pas bien du travail. Enfin, on fait pas bien son travail. Donc, je leur dis à chaque fois que ça vous paraît difficile, compliqué. Dites-vous que c'est la même chose. Vous le faites pour le bien de lui, de l'équipe, de l'entreprise. Et ça, ça va vous aider. Ça change de regard. Tout d'un coup, on fait un pas de côté et on se retrouve plus avec ses difficultés personnelles.
Je comprends. Je comprends tout à fait. Là, tu me parles de la relation du manager avec son équipe et 100% d'accord. Ta légitimité, elle va s'appuyer, en tout cas avec ton équipe, sur le fait que tu apprécies tes collaborateurs, tu les considères tous capables, etc. etc. Par contre, là, on parle de middle manager.
Ouais.
Est-ce que tu n'es pas confronté aussi à une dissonance? C'est-à-dire que le manager, il va te dire « Ouais, mais non, mais moi, mon équipe, je l'adore, etc. Mais j'ai quand même un problème. » C'est qu'en fait, ce qu'on me fait faire et mon manager à moi, j'ai des difficultés relationnelles avec lui ou avec elle. Et donc, en fait, je ne sais pas comment gérer cet écart entre mon équipe que j'adore, etc. et puis ce qu'on me demande de faire. Qu'est-ce que tu réponds? Comment trouver sa place, en fait, un peu entre le marteau et l'enclume?
Ouais, j'ai beaucoup cette question-là en formation, quand on est sur le sujet de communication plutôt. C'est-à-dire, j'ai un message de la direction que je ne valide pas, effectivement, il va falloir que je le descende. Moi, je leur dis souvent, je dis, mais comment tu le ferais si c'était par exemple un message de ta famille ou de tes amis que tu devais transmettre à d'autres? Et tu ferais comment? On déconnecte du travail.
Ok.
J'exprimerais que je ne suis pas forcément d'accord, que je le valide pas pour tout, mais que des fois, on n'a pas le choix. Alors, si on a un choix, c'est-à-dire qu'il est très tranché et j'assume toutes les conséquences qui sont derrière. Là, la personne, les managers, qu'en tout cas, j'ai accompagné là-dessus, sur ce sujet-là, ils se sont trouvés le plus à l'aise en se disant, voilà, j'ai une information à vous transmettre. Je sais qu'elle va créer. Donc, en fait, on fait tous les... Si tu veux, on fait le schéma, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. On fait tous les cas de figure. On explique les angles morts et on leur dit voilà, moi maintenant aujourd'hui je vais vous passer ce message-là. Je sais que peut-être la majorité d'entre vous vont se rebeller, vont pas être d'accord. Je comprends, moi à votre place, je comprends. Mais j'aimerais aussi que vous compreniez ce qui se passe en haut. Je peux vous donner des explications, je peux répondre à vos questions. Je peux effectivement vous dire que ma place elle n'est pas facile, mais là on n'est pas sur moi, on est sur vous. C'est comment on va faire pour que tous ensemble, je me considère avec vous, on va y arriver et on va répondre à cette demande qui non plus n'est pas facile à gérer pour moi.
D'accord.
Je les intègre dedans parce qu'une équipe est beaucoup plus solide quand le manager est preuve d'authenticité et dit que ça lui est difficile, qu'il comprend les deux, mais ce n'est pas pour autant acceptable. C'est toujours cette justesse entre « je comprends et j'accepte ». Il y a des fois « je comprends, je n'accepte pas ». Mais est-ce que j'ai le choix par rapport au poste que j'occupe?
Ben non.
Voilà.
C'est clair.
Et on peut être clair en se disant, on n'a pas le choix, on doit serrer les coudes. Aujourd'hui, par exemple, là, je vois avec le Covid, il n'y a pas d'augmentation, il y a des difficultés, on a même fait des licenciements. On va vous demander de vous investir encore plus sans être augmenté. Qu'est-ce qu'on fait?
En fait, moi, je dis, c'est une occasion pour le manager de grandir. C'est parce que, je répète, quand tout va bien, tout le monde est bon. C'est pour annoncer une augmentation, les ventes sont à plus 30, ton rôle de manager, ami, tu n'aurais pas de manager. Là où on va voir ta valeur de manager, c'est justement quand on va annoncer que les ventes sont à moins 20, qu'il y a un plan de licenciement, etc. Effectivement, il y a un travail déjà à faire de compréhension de la part du manager, lui, avec sa direction. C'est-à-dire avoir un maximum d'informations et essayer de se convaincre lui-même. Parce que moi, je pense que la posture de dire « je ne suis pas d'accord avec ma direction, mais bon, je n'ai pas le choix et on va le faire », elle est impossible à tenir.
Non.
Tu ne dois pas dire si tu es d'accord
ou pas d'accord.
Il faut
avoir des lignes, par contre, de la direction.
C'est ça.
Pour aider le manager à soutenir auprès de ses équipes.
Et en fait, le travail, c'est effectivement de dire, bon, OK, moi, je n'étais pas d'accord, puis j'ai discuté, j'ai réussi à me convaincre. Vraiment, je pense qu'il faut ce premier boulot de se convaincre soi-même, parce que tout est plus simple quand on est convaincu soi-même. Ensuite, il faut se dire, mais chacun de mes collaborateurs, comment il va le ressentir ? Tac, tac, tac. Si on les connaît bien, c'est plus simple. Et après, ce que je trouve bien dans ta démarche, dont j'ai franchement jamais parlé, et je pense que c'est très bien, c'est quelque part, tu t'ouvres et tu fais preuve d'humilité, et voire même de, comment on appelle ça, de quand on est exposé. Le terme m'échappe, mais de... C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais de dire, vous voyez...
Vulnérabilité,
c'est ça. Mmh. Tout à fait, c'est le terme que je cherchais. Il n'y a pas de problème par rapport à exposer ta vulnérabilité, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu es un manager que tu es supérieur à tout le monde et que tu es un super-héros. Tu as le droit de dire, bon, moi, on m'a appris ça. Franchement, je suis tombé du grenier à la cave, je ne m'y attendais pas. Par contre, j'ai réfléchi. Je me suis dit, OK, ils font ça pour le bien de l'entreprise. Moi, je suis manager. C'est mon job, les gars. Donc, il faut qu'on trouve une solution, etc. Mais la solution, je ne la trouve pas tout de suite. Je sais que ça va être déplaisant pour vous. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à résoudre le problème. Je trouve que la posture, elle est vraiment intéressante. Parce que quelque part, tu retournes le problème. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire ça à chaque fois. Si à chaque fois qu'il y a un problème, tu dis à ton équipe, non. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire.
Moi, je trouve qu'en fait, on va souvent à la facilité parce qu'on est dans l'urgence. Beaucoup d'entreprises sont dans l'urgence de tout. C'est une course contre la montre pour trouver des clients, pour faire ses actions. Et l'importance de la responsabilité de chacun est hyper importante. Il faut responsabiliser ses collaborateurs, comment se responsabiliser soi-même. Donc, les mettre dans cette démarche-là, c'est déjà différent. C'est se positionner différemment.
Après, tu as dit que ce que tu avais en ce moment, c'était pas mal de gens qui ont été fragilisés par un burn-out ou par un harcèlement. Est-ce que c'est une tendance qui est à la hausse, ça, ou ça a toujours été ? Parce que moi, je ne sais pas. Moi, c'est toujours pareil. On en parle de plus en plus. Quelquefois, je me dis, mais... des vrais cas de harcèlement moral. Moi, je n'en ai pas vu tant que ça dans ma carrière. Pourtant, j'ai croisé des milliers de managers. Hein. Donc, des vrais cas, hein, c'est-à-dire la personne vraiment harcelée. Hein. Et on en parle pourtant beaucoup, 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 beaucoup. Donc, moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue de consultant. Parce que, voilà.
Alors, moi, je ne sais pas, parce que moi, mon œil...
Tu récupères ceux qui ont été harcelés.
Moi, ça fait... 5 ans que j'ai changé de voie et que je fais de l'accompagnement, du coaching et tout ça. Donc 5 ans, c'est pas non plus, tu vois, en termes de temps pour te dire voilà ce qu'il en est. En tout cas, le burn-out, c'est sûr, il y en a un paquet parce que c'est quand même, ça a été vraiment au démarrage. Je pense que j'ai pratiquement eu 70% de 4 coachings, c'était du burn-out.
D'accord.
Burn-out. Maintenant, ça n'est pas autant. Par contre, le harcèlement moral. J'ai des cas assez difficiles, j'avoue. Il faut se reconstruire derrière tout ça, parce que souvent, les personnes, comme c'est insidieux, c'est fait, c'est pervers, hein, donc ça attaque la personne dans son intégrité, dans ce qu'elle est. Donc ça remet beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, en fait, à revoir et à resolidifier. C'est comme le muscle, on parle souvent de la confiance, on prend l'image du muscle. Voilà, c'est bah, plus je m'entraîne, plus ça va se construire, plus ça va être solide et tout. Mais quand on l'a tellement abîmé, que ben, y a plus rien, on repart souvent à zéro.
Ouais.
Donc là, c'est des coachings qui durent 1 an.
Ah oui.
Ouais. C'est vu avec la direction. C'est souvent, ces personnes-là ont changé de direction, ils ont été accompagnés par les RH. La personne a été jugée, donc c'est des vrais cas. Hein.
Ah oui, d'accord, ok.
Oui, oui, oui. Donc on accompagne cette personne-là pour qu'elle sorte de cette situation fragilisée.
D'accord.
Et se remette en chemin, en action. Donc, situation de blocage.
Et en fait, les raisons...
Il y en a quand même.
Et les harceleurs, en fait, c'est quoi leur raison ? Peut-être tu ne sais pas, en fait. C'est peut-être pas
alors, il y en a, je ne sais pas. Il y en a 2, là, que je ne sais pas exactement. Par contre, sur les précédents, parce que je crois que j'ai dû en avoir 5-6, qui a très, très fort. C'est des gens qui ont été dans la boîte depuis des années, qui ont peur de se faire prendre la place.
Ouais.
Donc, ils prennent des bons éléments au départ, qui sont très contents, ils leur font faire. Sauf que le moment où ils réalisent qu'ils font tout à la place du manager, ils commencent à se rebeller.
D'accord.
Et à vouloir s'exprimer, et à vouloir changer et tout. Et là, en gros, c'est comme si on fermait à chaque fois le couvercle, la personne ne veut pas, le manager ne veut pas entendre et tout. Et commence à faire douter la personne sur ses compétences.
D'accord. Ok.
Mais c'est pas si bon que ça, je rattrape derrière. Mais tu sais, mais là, tu crois que t'es bon, mais c'est parce que je te l'ai jamais dit, j'ai pas pris le temps. Donc peut-être que c'est une erreur de ma part, mais c'est toujours insidieux. D'accord. Et ça commence à être comme ça, et ça, c'est par écrit, c'est à l'oral. Alors, au début, beaucoup à l'oral, ouais. Et on retrouve après beaucoup d'écrit.
D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le harceleur, c'est plutôt un manager qui se sent dépassé par son équipe, et au lieu de les inciter à devenir meilleurs, tout d'un coup, il se sent menacé.
Il a peur pour lui. Voilà.
Il a peur pour lui, d'accord. Et ok, bon, c'est complexe hein, comme sujet. C'est-à-dire que
assez de recul aussi pour.
Mais ce qui un auditeur là qui se sentirait dans cette position, c'est-à-dire qui sentirait que son boss ou son
N+1,
lui dit non, mais t'es pas si bon que ça, etc. Tu lui conseillerais quoi en fait?
Bah, d'en parler à souvent les responsables de développement des compétences en entreprise, donc soit responsable de formation, et d'émettre ce doute en fait, le partager, en disant voilà, moi j'aimerais bien avoir un retour autre que celui de mon manager.
Oui, ok, d'accord.
Donc on fait une démarche 360, tu me parlais des outils tout à l'heure. Ça peut être quelque chose qui peut nous permettre de donner une piste de travail. Et le 360, c'est avec d'autres collaborateurs, d'autres pairs, et d'avoir une vision plus large. Donc, la personne peut déjà se rassurer et se dire « Ah bah, en fin de compte, il y a peut-être qu'avec une personne que ça ne va pas. » Et on commence à faire un vrai diagnostic.
D'accord.
Et surveiller, surtout.
Ouais. Ce que je conseille aussi, c'est déjà de faire le bilan, une espèce de bilan, de dire « Bon, visiblement, il me reproche plein de choses, alors qu'avant, tout allait bien, etc. » Est-ce que je peux encore tirer quelque chose de cette relation? Est-ce qu'il peut encore m'apprendre des choses? Parce que forcément, il a peut-être des choses à m'apprendre, ça. Ou si réellement, je dois sortir de la relation, c'est-à-dire je dois casser, m'en aller, etc.
Bah, on en arrive souvent. Bah, là, par exemple, pour les cas de burn-out, quand la personne ne sait pas qu'il y a un burn-out, mais je l'apprends, c'est déjà bien. Ouais. En disant que ça l'est déjà, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'employeurs, ils m'ont payé pour du coaching, pour les remettre en chemin. Mais de remettre en chemin quelqu'un, c'est aussi de le faire sortir de l'entreprise.
Ouais, d'accord. Ok. Oui. D'accord. Non, mais c'est clair, c'est sûr. Alors, super intéressant, mais on avait dit qu'on parlerait de disques. Donc, moi, je connais bien l'outil. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est savoir, parce que toi, tu utilises plein d'outils. Hein. Moi, je suis assez focalisé sur le disque, j'en connais d'autres. Hein. Mais j'aimerais bien savoir déjà ce qui te plaît en particulier avec le modèle disque. Voir un peu si ça correspond aussi...
Alors, ce que j'aime, alors moi, dans mon parcours, donc pour être coach, formatrice, tout ça, j'ai vu pas mal d'outils qui peuvent nous permettre de déceler les personnalités pour vraiment comprendre les interactions qui dysfonctionnent, disons, où on sent qu'il y a des incompréhensions et des tensions. Parce que quand tout va bien, on n'a pas d'outils à utiliser, en fait, j'ai envie de dire, tant mieux si tout roule. C'est quand les gens ne se comprennent pas. Et moi, cet outil-là, je l'ai trouvé particulièrement bien parce que je trouve simple d'utilisation, simple à comprendre, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il est simpliste, loin de là. Par rapport aux autres, je trouve qu'il fonctionne bien par rapport au manager et l'équipe. Les autres que tu dois connaître, BTI, MBTI, l'énéagramme, on va avoir ProcessCom. Je trouve qu'on est un cran au-dessus en termes de connaissance de soi, c'est très intéressant. Mais on va se retrouver avec, par exemple, quand je pense au MBTI, moi, j'ai beaucoup aimé pour mon développement à moi.
D'accord.
Mais si tu veux, 16 profils, je trouve ça très compliqué d'arriver à les repérer dans ces équipes.
C'est clair.
Donc, c'est plutôt quand on veut vraiment prendre le temps de se connaître mieux.
Ouais.
Donc, moi, dans une démarche d'autre coaching ou, par exemple, de bilan de compétences, je trouve très utile. Après, pour le management et l'application aux équipes, c'est compliqué. Donc, le disque, pour ça, je l'aime beaucoup. On a 4 profils dominants, si on veut, qui sont identifiés. Puis on en a 8 parce qu'on a les intermédiaires. Comme une personne, elle est toutes les couleurs, mais elle en est surtout un qui ressort et puis une couleur frontière. C'est d'ailleurs qui nous évite souvent d'être dans la caricature. C'est ça qui est
tout
bon.
Tout à fait, ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que moi, je l'aime bien. Il est facile à comprendre. Et surtout, autre chose, c'est qu'on l'utilise dans plein de domaines. Ouais. Je te parle du management, mais par exemple, on va l'utiliser pour du recrutement. Moi, j'aide aussi les cabinets de recrutement. Donc voilà, analyser les profils. On va l'utiliser pour la communication, sens large, hein, c'est-à-dire pas que la communication managériale. Ça peut être aussi pour l'intime. On va l'avoir aussi pour tout ce qui va être la vente, le commerce.
Oui, carrément.
Ça nous donne des clés. On va l'avoir pour le sens de l'accueil. Moi, je fais beaucoup aussi les plateaux téléphoniques, les accueils clients.
Parce que ça va vite, en fait.
Bah exactement, c'est très facile.
Très très vite à cerner quelqu'un avec 3-4 preuves.
Cerner, puis surtout essayer de comprendre son besoin psychologique. Quand on a compris de quoi il a besoin, bah, tout de suite, on y va facilement.
Ouais. Et c'est agréable pour tout le monde, en plus. C'est ça qui est sympa.
Ouais,
je suis assez... Moi, en fait, je rejoins complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il est simple, mais il n'est pas simpliste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, il est... comme il est simple, il peut être dynamique. Tu vois, la ProcessCom, moi, j'ai fait, je trouve ça super. C'est ultra complexe. Et il y a une notion de dynamique, c'est-à-dire on est dans ce segment-là, mais on est en train d'évoluer vers ça. Bah, le disque, il n'y a pas ça du tout. Le disque, il te fait une photo, en fait. Il dit, bah, là, tu es comme ça, mais il ne dit pas, tu vas rester comme ça toute ta vie. Parce qu'en fait, tu peux complètement faire évoluer, même de manière volontaire, ton profil disque.
Complètement.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. En fait, moi, ce que je conseille à un manager, déjà, c'est de faire son test à lui. Parce que ça va vite et très vite, il va dire « Bon, ah ouais, tiens, ok, je suis ça. » Et ensuite, de lire ce que ça veut dire. « Ah d'accord, je suis dominant. » Donc en fait, c'est pour ça que quand machin, il me donne plein de détails, ça m'énerve. Et ça va déjà permettre au manager, sans rien faire d'autre, de pouvoir donner son mode d'emploi à ses collaborateurs. Et ça, on n'ose pas forcément parce qu'on dit « Ouais, mais non, mais je ne veux pas imposer. » Ouais, mais c'est quand même un énorme cadeau que tu fais à ton collaborateur quand tu dis « Tu vois, moi, je fonctionne comme ça. » Donc à chaque fois... que tu vas me ramener un truc plein de détails avec des pièces jointes dans tous les sens et que tu ne vas pas me donner la conclusion en premier, je vais m'agacer. Donc, tu vois, la prochaine fois, tu me donnes la conclusion. Et après, si tu veux, on rentre dans les détails. Première phase vachement importante. Tu es manager, donc tu as quand même le droit aussi. Tu as le droit, après, voir si c'est bien, mais tu as le droit d'imposer ton style de communication. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Mais déjà, connaître ton style de communication et l'expliquer à tes collaborateurs, c'est un premier pas énorme. Et ensuite, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Et ensuite, apprendre à décrypter chez les autres leur style de communication, c'est une aide énorme, et comme tu l'as dit, dans tous les domaines. Et enfin, te dire, et maintenant, moi, comment je fais pour faire le trajet entre qui je suis et qui est l'autre dans ma manière de communiquer, c'est-à-dire comment je l'influence. Mais déjà, se connaître soi-même, c'est vachement intéressant. Et le disque, c'est... Moi, je trouve que c'est assez marrant, parce que ça va très vite, quoi. Tu comprends tout de suite.
Bah surtout que c'est bien, c'est que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est que tu as quand même deux cartographies. Tu as la cartographie de ton disque quand tu es bien dans ta sphère intime et ton disque quand tu es en représentation avec ton masque privé. Et ça, c'est hyper important.
Ouais.
Moi qui accompagne là-dessus, c'est de dire, bah voilà, est-ce que tu es le même, par exemple, chez toi ou est-ce que tu es le même que celui qu'on voit au travail? Voilà.
C'est clair.
Et là, c'est bien parce qu'en fait, aussi, moi, j'accompagne en coaching. Forcément, j'amène les gens à réfléchir sur des situations où ils sont bloqués. En général, je ne fais pas du coaching quand tout va bien. Ou en tout cas, soit c'est d'une démarche d'évolution, mais il y a une remise en question à ce moment-là.
Ouais.
Donc, on voit si justement les deux profils sont différents. Tiens, je vois qu'effectivement, là, tu montres que tu es aux antipodes de ce que tu es dans ton intime. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une cassure? Est-ce qu'il y a un excès? Est-ce qu'il y a du trop? Et on sait que quand il y a du trop, ça ne va pas. C'est de trouver un juste équilibre dans tout ça. On peut pousser une couleur dans laquelle on n'est pas forcément très visible dans l'intime, mais on ne peut pas être complètement différent. Si on est complètement différent, on risque soit d'être gauche en plus dans la manière de le faire, ou alors de se mettre soi-même en fragilité par rapport à... Enfin, c'est comme je dis, on n'est plus aligné, quoi.
Ouais, tout à fait.
Tu vois.
Après, ça va reprendre une posture, ça s'apprend, en fait. Plus on le fait, plus on progresse. Et c'est un pas vers le charisme et vers la capacité de s'adapter et voilà, de savoir parler à chaque personne.
Exactement. Il y a une grosse faille. Tu sais, l'erreur de communication, la première qu'on dit, c'est qu'en fait, on a tendance à parler comme on aimerait qu'on nous parle.
Ouais.
On parle à autrui comme ça, alors qu'il faudrait qu'on s'adapte à lui.
Bien sûr.
Se mettre sur son canal de communication.
Bien sûr, bien sûr. Et des fois, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que parfois, un S, pour avancer, il a besoin que tu lui parles comme un D parce qu'il va apprécier ça chez toi, ta capacité à le faire sortir de l'ornière. Mais ça se fait d'une manière respectueuse selon ses critères à lui. C'est pas...
Ouais, alors moi, j'irais plutôt dire c'est qu'il y a un juste équilibre entre les deux.
C'est ça.
C'est-à-dire que si, par exemple, effectivement, on a quelqu'un de très rouge qui va... Donc, quand on dit rouge, c'est voilà, je vais aller droit au but.
C'est dominant.
Voilà, exactement, dominant. Quand il parle à quelqu'un qui est stable, qui est dans l'écoute et plutôt vu du rouge, va manquer d'initiative, on va essayer de lui donner confiance en lui et justement de l'amener à être quand même focus résultat. Mais on ne peut pas le faire avec l'énergie complète du rouge. Sinon, c'est de l'agression.
Non, c'est sûr.
Voilà.
C'est clair.
Donc, il y a toujours, en fait, l'idée, c'est moi, je dis, c'est souvent ça, c'est je fais un pas, tu fais un pas. Parce que la personne qui va parler, quand elle se dit, bah voilà, je comprends l'outil disque, je sais comment aller parler à mes collaborateurs et tout. L'idée, c'est justement de trouver de la justesse et de l'empathie. Mmh. Moi, je trouve que c'est un très bon outil pour ça.
Ah oui, oui.
Voilà. C'est-à-dire, bon, moi aussi, je sais, je les connais mes failles, justement. Je vais peut-être pas y aller aussi bourrin que je le serais, enfin, habituellement. Mmh. Donc, je vais faire attention et puis je vais l'amener à ce qu'il construise avec moi, voilà, et qu'il se bouge plus, qu'il se mobilise plus. Mmh.
Moi, j'aime bien aussi l'image avec le langage et le territoire, c'est-à-dire tu fais la carte disque, puis tu dis bah moi j'habite là-bas en haut à gauche, et puis lui il habite là-bas en haut à droite. Hein. C'est comme si j'étais en France et lui en Angleterre. Si je me pointe dans son territoire et que je me mets à parler français, il va pas me comprendre. Je vais faire l'effort de parler anglais. Maintenant, je vais garder un accent. Mmh. Et en fait, il apprécie mon accent. C'est-à-dire qu'il peut apprécier aussi ma différence. Il sait que je suis le chef. Et du coup, il va trouver lui aussi comment s'appuyer sur moi, etc. etc. Est-ce que tu... alors, on a une petite interaction, là. Ça fait 45 minutes à peu près qu'on parle. En plus, tu me vois en vidéo. D'après toi, je suis quoi, alors, du coup?
Ouais, il y a du jaune.
Jaune, c'est
jaune
influent.
Et du rouge.
Gagné. Ouais, alors, plutôt rouge
ou plus... Ça se voit physiquement en plus, je trouve aussi.
Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Bah, il y a un côté un peu décontracté dans ta posture. Tu es très souriant avenant. Déjà, dès qu'on s'est mis en visio, voilà, je vois le sourire, tout ça. Hein? Et puis, il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, droit au but. On le sent dans la voix.
Ouais.
Il y a quelque chose aussi qui donne le ton et qui drive.
Mmh. Bon, gagné. Et en fait, j'étais D il y a longtemps et pas très I et ça a évolué plus vers le I. Et aujourd'hui,
J'allais dire plus le I quand même.
Ouais, maintenant, c'est le I qui prédomine un peu. Ouais. Bon, merci pour le diagnostic. Évolue, bon, et en plus, c'est sympa parce que ça confirme le test. Donc, c'est que tu es d'accord avec le test.
Voilà, exactement.
C'est pas mal du tout. Alors.
C'est que tu vas trouver le mien plutôt.
Comment?
Toi, tu vas peut-être trouver mon profil.
Moi, je pense que j'ai un peu de mal, j'avoue. La voix, tout ça, moi, je pense qu'il y a du D ou du I. Tu es assez affirmatrice. Par contre, mais tu as aussi ta pratique de coaching, donc ce n'est pas évident. Tu vois, tu ne m'as pas coupé la parole, jamais. Or, moi, je t'ai coupé la parole, souvent. Donc, c'est forcément quand même, il y a du stable, mais de là à dire...
C'est proche quand même.
Il y a quand même beaucoup de S. Moi, je dirais S-I. C'est bon
alors,
ou c'est pas
fait,
bon?
Ouais, c'est ça.
Ah, yes! Alors,
je pense que parce que je suis en écoute avec toi, je suis en podcast, on est tous les deux, donc une interaction, je le fais plus en mode vert. Mais je suis très I.
Ouais, d'accord, ok.
Bon, après, tu sais, c'est un peu le côté agence, l'animation aussi, hein, tout ce qui est formation, animation,
beaucoup
d'énergie. Je suis très dans le jeu, l'apprentissage par le jeu.
D'accord, ok. Non, tu vois, au départ, j'ai pensé à D, mais en fait, c'est la voix, etc., mais c'est du I, en fait.
Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me mettent, du D, que j'ai très peu eu quand j'avais fait les premiers tests, tu vois, avec Profil 4, quand j'étais avec Thierry, là, au début. J'ai fait, mais c'était tellement faible, c'était 3%.
Ouais, d'accord.
Et pourtant, je suis quand même entrepreneuse et tout.
Ouais,
et
c'est ce que...
Et en fait, je pense qu'il s'est développé.
D'accord. Bon. Et ben voilà, on a chacun fait son diagnostic et on n'est pas tombé très loin. Mais voilà. Est-ce que tu as... Ah oui, alors... Donc en fait, quel autre outil tu utilises, je dirais, quasiment autant que le disque?
Pratiquement autant, j'ai envie de te dire, c'est pas autant parce que moi, le disque, je l'affectionne beaucoup, comme je te l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai, moi, souvent, quand je démarre un coaching, je commence par le disque. En revanche, le manager que j'accompagne, selon sa problématique, je peux le compléter d'autres outils, si on parle de tests, qui vont être plutôt des tests psychométriques.
D'accord.
Donc, je vais travailler avec des plateformes sur lesquelles je suis certifiée aussi pour pouvoir passer, par exemple, un test sur le développement de l'intelligence émotionnelle.
Oui, d'accord.
Où est-ce que la personne, elle se situe là-dessus? Sachant que ça peut être un problème de manager, hein, de ne pas comprendre l'autre, de ne pas avoir conscience de soi. Donc, ça, on peut le travailler. C'est une clé en plus. Je vais avoir l'outil 360.
Oui.
Au final, je le fais assez peu. Ou je le fais pas par le logiciel, mais plutôt par des questions qui font comme un feedback et qu'on construit ensemble avec le manager.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par 360? Parce que moi, j'ai vu du bien et du pas bien, enfin, c'est mon
oui,
jugement.
Oui, bah justement, c'est exactement ça. Pour moi, ça peut être très violent.
Ah, ça peut 360. Être hyper dangereux.
Donc voilà, donc nous on le fait pas comme ça, ben nous, je dis toujours parce que le 360, moi je le fais en adaptation avec le manager qui est en face de moi. D'accord. Sur quoi il a envie de travailler, mm-hmm. sur quoi il veut avoir des retours. Et donc on travaille les questions. Donc j'ai institué une trame, mm-hmm. et à chaque fois on voit ensemble sur quoi en fait il va vouloir travailler. Mm-hmm. S'il veut avoir des retours bien concrets sur des opérations qu'il a menées, s'il veut avoir des vrais retours en termes de qualité, voilà, de points d'amélioration, de choses comme ça. On va mettre les questions qui l'intéressent. Et on va effectivement solliciter les personnes de son entourage, donc des pairs, des gens de son équipe, des gens des services support, des gens avec qui ils ont pu travailler, ou des clients. Et on va faire un retour de ces personnes-là. C'est moi qui réceptionne et qui fais un global, en fait, une analyse globale.
Je comprends.
Voilà. Mais c'est souvent de la co-construction, ouais. puisque les outils sont, effectivement, je te rejoins, sur très, très, très dur.
En fait, si tu veux, moi, je mets toujours un petit bémol par rapport au 360, parce que j'ai beaucoup de managers qui me disent bah tiens moi j'ai vraiment envie de savoir ce qu'on pense de moi, donc je vais demander à mon équipe et je vais leur dire non mais vous dites tout ce que vous voulez, hein, gars, vraiment allez-y, n'hésitez pas, etc. Puis après quand il prend la vague il sait plus quoi faire parce qu'il se fait parfois soit ils disent rien parce que dans sa posture de toute façon ils ont trop peur du retour de flamme, ou soit il se fait démonter sur place, et ou soit il croit que tout ce qu'on lui a dit, ce sont des axes d'amélioration. Or, non, t'es manager, tu choisis. C'est-à-dire que t'as le droit de dire, ouais, ok, je suis comme ça, ouais, c'est vrai. Merci pour le constat, les gars, j'étais au courant déjà. Et ça va continuer comme ça. Tu vois, t'as le droit de dire ça à ton équipe.
Bien sûr,
c'est
bien
pas
sûr.
Parce que... Donc, mais quand même, moi, je dis déjà...
Mais moi, en fait, on ne demande pas à changer. Enfin, c'est ça, le truc. C'est qu'on ne change pas l'autre.
Ouais, mais quand
on
tout...
se change soi, on a envie.
On est complètement d'accord. Mais quand tu ouvres la porte en tant que manager, il faut déjà être bien solide quand même. Parce que tu peux te prendre une vague et du coup, croire qu'il faut tout changer alors qu'il y a plein de choses qui sont bien, etc. Et
c'est que c'est mal amené. Là, pour le coup, je me permets de te couper, c'est souvent que c'est mal amené de la part de la direction, parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve avec donc justement une porte ouverte en disant bah voilà, vous m'avez dit tout ça, mais derrière peut-être que la personne en fait elle n'a pas envie de changer, comme tu dis, ou alors elle ne je sais pas, ou elle n'a même pas de clé pour changer. Donc c'est le travail est mal fait. Donc, je trouve ça dangereux à deux niveaux. C'est-à-dire que si on sollicite les collaborateurs, ils vont dire bah si on me sollicite, c'est bien qu'il se remet en question et qu'il va changer,
ou qu'il a un problème.
Ou qu'il a un problème, voilà. Donc en plus, on en dit plein de choses.
Tu vois, une direction qui impose, hein, par exemple, demain, je vais voir l'équipe d'un de mes collaborateurs, d'un de mes managers, et je leur dis, bah, tiens, on va faire un 360, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de lui ou d'elle, etc. Il y en a plein qui vont se dire, oula, il y a un problème, machin, il est sur la sellette. Parce que ce n'est pas normal que la direction vienne comme ça directement nous voir et nous demander. Tu vois, ça peut être hyper dangereux de faire ça avec ses managers. Moi, je le dis souvent, je dis, faites gaffe avec cet outil-là. Après, il y a une manière de le faire, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est un truc que je fais, enfin, que je faisais beaucoup parce que je ne fais plus beaucoup d'interventions en groupe. C'était, on s'auto... en fait, le principe, c'était de dire, on met toutes les personnes dans la même pièce et puis chacun, on essaie de deviner le profil disque des autres. Il y a une présentation du disque, etc. Chacun dit, bah, à mon avis, il est comme ça, mon avis, il est comme ça, etc., etc. Et après, on fait une moyenne. C'est-à-dire que, globalement, tu ressors avec ton profil tel que tu es vu par les autres. C'est une moyenne.
Oui.
Ce qui est aussi très marrant, c'est que c'est assez juste, hein, d'ailleurs, en général, alors avec des bémols. Et quelquefois, je propose au manager d'y participer avec son équipe. Pourquoi ? Parce que justement, l'outil disque, il ne dit jamais « ouais, mais ça, c'est mal ». Par contre, l'outil disque tel qu'on l'utilise chez Outil Manager, c'est juste bah, « tiens, cette personne-là, comment elle communique ?» C'est-à-dire, c'est quoi son mode de communication ? Donc, ce n'est pas vraiment un 360 au sens profond du terme, mais c'est quand même un feedback sur la manière dont on est perçu. Et là, je trouve que ça marche pas mal. Mais toujours avec l'autorisation du manager, quoi. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais...
Si, justement, si, ça, c'est exactement la même démarche que je fais pour le coaching d'équipe. J'intègre le manager dedans.
Ouais, ça, c'est génial.
Voilà.
Vraiment, vraiment génial.
Et même autre chose, en plus, derrière, si, par exemple, on veut optimiser la communication au sein de l'équipe, tout le monde, après, on met la cartographie complète de l'équipe. Je passe tout le monde sur le disque.
Ça, c'est super.
Et là, je vais faire ce qu'on appelle... c'est assez connu dans le coaching d'équipe. Après, je ne sais pas si toi... Je connais pas le nom. Moi, je l'appelle la vraie rencontre. Ouais. C'est-à-dire que je demande à ce que chacun passe par deux. Donc, ils peuvent être dans une autre salle ou quoi que ce soit. Ça dure 2 minutes. Par personne, on ne coupe pas la parole et on dit à la personne qui est en face de soi, donc par exemple on est en binôme là, je dis Cédric, ce que j'apprécie chez toi, c'est ça. Donc par exemple en communication, qu'est-ce que tu fais de bien avec moi? Bah, je sais exactement où je vais à chaque fois que voilà, tu me donnes un brief, c'est la droite au but, je connais l'objectif, tu passes pas par quatre chemins et tu me dis exactement sur quoi je dois vraiment travailler. Imaginons c'est ça. Et ben en fait, je vais rajouter derrière, en revanche, ce que j'aimerais que tu optimises avec moi, parce qu'il y a un point d'amélioration, c'est que bah, tu me donnes des délais trop courts. Moi, pour moi, c'est hyper stressant. Je sais pas, je te fais un truc, hein. C'est hyper stressant.
Et, je crois que c'est pas mal.
Tu me demandes souvent des choses ou des changements qui arrivent du jour pour le lendemain. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai pas cette capacité ou cette flexibilité pour réagir bien et me sentir à l'aise dans ce que je vais te présenter.
D'accord.
Est-ce que tu peux faire un effort là-dessus? Et en fait, chacun repart avec sa feuille de route. Donc, on a tous les noms de chacun. Et toi, tu vas me faire la même chose. Et en fait, on accueille. C'est ce que j'appelle, c'est un cadeau. Il n'y a rien à dire. Si, par exemple, on pense que ce n'est pas juste, on s'en fout. Tu prends, c'est tout. Voilà.
C'est très, très bien.
L'exercice de la vraie rencontre.
Ouais.
Et après, quand on a fait tout ça, on fait un autre atelier derrière qui consiste à se dire comment est composée l'équipe. Les forces de chacun, les actions derrière qu'ils ont menées. En fait, on part vraiment en action. Bah, voilà, c'est l'équipe. Bah, y a des éléments qui sont très, très bons. Je sais pas, imaginons le côté administratif qui peut être un point noir pour certains. Est-ce qu'il y en a qui veulent, par exemple, gérer cette partie-là? Ou essayer de faire un binôme avec ceux qui ont des difficultés et apporter des best practices ou des choses comme ça. Et on fait des croisements de compétences.
Très, très intéressant. Moi, en fait, j'avais fait cette démarche à l'époque avec Laurie, qui était mon ancien, qui a participé sur le podcast et qui était mon ancien directeur d'exploitation. Quand il est arrivé dans l'entreprise, en fait, il a eu en tant que manager, beaucoup de problèmes. Il n'arrivait pas à asseoir son management, son autorité, etc. Il me demandait s'il ne devait pas sanctionner les gens. Et j'ai dit, non, on va faire un truc. Et en fait, c'est ça qu'on a fait. J'ai demandé aux personnes, j'aurais présenté le disque, j'ai demandé à chacun de passer son test. Ensuite, j'ai fait la séance classique, c'est quoi le disque de machin, truc bidule. Puis à un moment, j'aurais dit, tiens, on va regarder, d'après vous, c'est quoi le profil de Laurie, en fait, votre chef? Il est comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et du coup, ça s'est dénoué tout seul, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont dit, Et en fait, ils ont fait un peu ton truc de l'accueil. Bon, c'était en collectif, mais quelque part, ils ont retranscrit une vision de lui qui était plutôt juste. Et du coup, ça passait beaucoup mieux. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, par exemple, le fait qu'il voulait des délais très, très courts. Et en fait, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que ça sort, on sort de la personnalité de la personne. Ou plutôt, on l'accepte comme un ensemble de comportements. Et donc, on ne juge plus la personne en elle-même. On se dit, comme il est comme ça, il a ces comportements-là, et c'est normal. Il ne m'en veut pas à moi. C'est juste qu'il est comme ça, et que moi, je suis autrement. Et donc, la démarche après, elle est assez simple. C'est comment on fait pour se rencontrer, quoi.
Exactement.
Et c'est vrai que le disque, il est génial là-dessus.
Okay. Il y a un truc important sur le disque quand même, parce que moi je sais que je te dis ça, c'est parce qu'en le faisant en formation, je parle vraiment en formation. Il y en a pas mal qui peuvent se braquer en se disant on met des étiquettes.
Oui.
Attention.
Ouais.
On est toutes. Non mais là c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'en fait le disque ne nous montre qu'une. Disons, c'est une grille de lecture de nos comportements.
Ouais.
Et je dis bien de nos comportements, donc c'est la partie émergée de l'iceberg.
Ouais.
Après, ce qui nous nourrit à l'intérieur de nous, donc ça va être justement nos besoins psychologiques, nos émotions, plein de choses, nos motivations. Et donc, quand on met des catégories de couleurs, tout ça sur les personnes, il y en a que ça peut braquer.
Oui.
Il faut surtout se dire, on n'est pas une étiquette, on a toutes les couleurs en nous. Maintenant, c'est de savoir quelle est la couleur que je mobilise au bon moment.
Oui.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord.
Donc, je vais beaucoup travailler en équipe ça, en se disant, OK, très bien, t'es comme ça dans ton comportement préférentiel, mais là, on ne va pas être dans ta préférence. Là, tu vas affronter une situation qui va te nécessiter d'avoir du sérieux, de savoir où est-ce que tu vas, d'être très pointu et précis. Et tu vas peut-être mobiliser ton bleu.
Oui.
Là, par exemple, tu vas être en animation. Tu me caches ce bleu-là parce qu'on va s'ennuyer. Ça va être monocorde, bonjour, quoi. Tu vas me donner de l'énergie, tu vas impulser des choses. Tu as le savoir, maintenant, amuse-toi. Et le fait de vraiment comprendre qu'on ne met pas des étiquettes et qu'on a le potentiel d'aller dans tout le registre des couleurs,
ouais.
Qu'on est flexible, en fait. C'est vraiment ça, arriver à notre agilité relationnelle comportementale. C'est vraiment un super outil pour ça.
Ah pour moi, c'est la clé du charisme, ça. C'est-à-dire être capable d'aller... Voilà. En fait, les gens qui sont très charismatiques, en fait, ils font un truc qui paraît magique, mais en fait, ce qu'ils font, c'est ils parlent à toutes les couleurs en même temps. Toi, tu appelles ça des couleurs. Donc, D-I-S-C en même temps. Ils sont capables d'aller sur du D, etc., etc. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, en fait, ils ont un profil. Hein, ils ont une préférence. Ils ont une zone où ils sont plus compétents, plus à l'aise, plus confortables, etc. Mm-hmm. Et donc, le charisme, c'est toujours un moment. On ne peut pas être charismatique en permanence. C'est impossible. Même les personnes les plus charismatiques que tu vois sur scène, au petit-déj, elles ne sont pas forcément très charismatiques, quoi. On va dire
c'est
comme
sûr,
ça.
Mais c'est souvent ce que je leur dis.
Et c'est ouais. ça. Et en fait, c'est ça qui est formidable. C'est ouais, OK, on peut appeler ça une étiquette si on a envie, mais d'abord, c'est une étiquette qui ne juge pas en ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxièmement, c'est une étiquette qui est fondée non pas sur tes motivations, tes profonde, etc. Ça, on s'en fout. C'est juste que tu montres à l'extérieur ton profil. C'est ta manière de te comporter. Donc, ça ne touche pas à ton intimité, etc. Et en plus, tu as la capacité, c'est ce que tu viens de dire, c'est intéressant, d'occulter telle partie, de montrer telle partie, etc. Et donc, ce n'est pas une étiquette. Puisqu'en fait, tu peux la faire varier, varier comme tu veux quand tu commences à avoir un petit peu d'expertise dans le domaine.
Ouais, mais c'est important parce que c'est vrai que ce genre de questionnaires qu'on peut passer, pour certains qui peuvent être sceptiques, se disent « Ah bah tout de suite, voilà, je suis telle couleur, on va me dire que je suis comme ça, donc c'est parce que je suis telle couleur.
Ouais. »
Attention à ça. Voilà. Parce qu'en plus, notre personnalité, elle évolue toute notre vie.
En plus, ouais.
Déjà. Et elle va évoluer aussi dans la fonction dans laquelle, en fait, les couleurs, elles vont varier en fonction du poste que je vais occuper, de ce que je vis dans ma vie intime. Donc tout ça, le contexte, il est fondamental.
Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord.
Et c'est aussi hyper important pour un individu de bien se connaître. C'est plus qu'utile. Parce que ça permet tout de suite de se dire « Ah ben, ouais, ok, pourquoi ça se passe pas bien avec un tel ou un tel ?» Ben parce que moi, je sais que j'aime pas ça chez l'autre. C'est un truc qui me chagrine, qui m'énerve.
Ouais.
Voilà.
Et en fait, c'est pas l'autre que j'aime pas.
Exactement.
C'est son comportement à ce moment-là, ce qui est pas du tout la même chose. Et moi, à l'inverse, j'ai ce comportement-là et c'est pas qu'il m'aime pas non plus, en fait. C'est ça qui... Non, c'est sûr.
On parle du coaching pur, mais ouais, qu'est-ce qui résonne en moi? Pourquoi ça me met en colère? Ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Mais voilà. Donc, on sait qu'on aime bien cet outil parce que c'est clair. Très utile et c'est... Voilà.
Ok. C'est top pour ça. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont essayé de truander le test?
Ah oui.
Parce
oui, j'en ai déjà eu.
Ouais. Et tu le détectes, ça?
Ouais, je le détecte parce que franchement, c'est incompréhensible. L'écart entre... Souvent, je fais un échange avec la personne au téléphone quand je reçois le test, parce que souvent, je leur fais faire avant. L'idée, c'est que moi, j'ai tous les résultats avant de les voir.
D'accord.
Et je pose des questions, quitte à leur faire repasser le test. Parce que je dis, là, je sens qu'on a voulu être dans un type de profil. Mmh. Et si tu veux, ça arrive plus quand j'ai beaucoup de vert et de rouge. C'est, je veux être gentille, en même temps, je veux montrer quand même que je suis autoritaire. Et le disque, il est complètement bizarre.
Donc, tu as du dominant et du stable, c'est ça?
Ouais, exactement. Et alors, est-ce que c'est... On dit souvent qu'on peut être ces couleurs opposées. Ça peut se compléter. Mais c'est comment? Est-ce que je suis mobilisateur ou au contraire, je suis quelqu'un qui va jouer sur un peu stratégie de manipulation? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des grands personnages. Par exemple, si tu prends Simone Veil, j'imagine très bien qu'elle avait du rouge autant qu'elle avait du vert. Mais après, c'est voir quelle est, quelle est la personne que j'ai en face de moi. Est-ce qu'elle a été sincère quand elle a répondu le test? Donc, je pose des questions. Si je vois que ça doute, je dis « ça ne vous embêterait pas de repasser un test » et je fais repasser le test.
Ouais, d'accord. J'ai eu ça, moi aussi. Et en fait, c'est un peu la limite du test qu'on propose. Et c'est pour ça que c'est intéressant que derrière, il y ait une lecture par un pro. C'est ce que tu fais. Moi, j'ai pris le parti de proposer le test sur le site parce que je me suis dit « ça va aider 90% des gens parce que c'est juste pour ou peut-être 80% des gens, c'est juste pour eux. » Après, c'est vrai qu'on a entre 10 et 20% des gens. On se dit… clairement, hein, moi, quand ça croise, c'est-à-dire quand tu as du D et du S vraiment fort des deux côtés en même temps, ou du I et du C très fort, tu te dis quand même, ou ce profil-là, il est étrange quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, le peu d'expérience que j'ai, mais c'est vraiment peu d'expérience, donc c'est vraiment. C'est souvent que les gens mélangent deux contextes. C'est-à-dire que tu peux être avec tes potes I, tu es toujours la personne qui va apporter de l'innovation, etc. Parce qu'au travail, tu es un ingénieur qui travaille beaucoup dans des domaines nouveaux, etc. Mais au travail, tu es C, c'est-à-dire que tu accumules des données, tu creuses les sujets, etc. Mais après, voilà. Et moi, l'impression que j'ai eue le peu de fois où j'étais confronté à des gens comme ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ils répondaient à la fois sur leur profil professionnel, par exemple, et leur profil intime, tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai vu. Alors, mais peut-être après, je me trompe. Et puis j'ai eu le cas d'un. Bon, mais là c'était dans le contexte professionnel, donc je ne vais pas donner de détails. Ben, j'ai fait passer le test à toute une équipe, dont une personne. Et clairement, il n'avait pas envie qu'on sache ce qu'il était. Bon, c'est tout.
Ça, c'est qui, à ton avis ? Tu sais déjà ?
Ah, ben oui, tout de suite. Ah, ben j'ai repéré.
Quand la personne, elle n'a pas envie de donner son profil, on sait déjà quel profil c'est.
Ah, c'est clair.
Bah, en plus. On s'en gardera pour nous, pas pour les auditeurs.
Voilà, mais ça, je l'ai senti parce que finalement, je connaissais la personne par ailleurs et que j'avais beaucoup travaillé avec elle et que je connaissais parfaitement son profil en l'ayant observé. Et quand le test est sorti, je me suis dit, d'accord, le gros malin. Il était S sur son test.
Ah,
chaleureux.
Là. Oui, bah c'est pour ça qu'après on peut émettre des doutes et poser des questions à la personne pour affiner tout ça. Mais je veux revenir sur le parrain. Tu me parlais du bleu et du jaune, donc C et I.
Donc C c'est consciencieux et I c'est influent.
Moi, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient beaucoup de ces deux couleurs là, c'était très intéressant parce que pour moi ça peut être un profil. Qui est très complémentaire. Si tu veux, je dis souvent qu'un jaune, un I, un influent, s'il a beaucoup, beaucoup de I, qu'il n'a pas de bleu ou pas trop de couleurs frontières, très marqué dans la caricature, ça peut être quelqu'un qui fait le show, c'est une coquille vide.
Ouais.
Quand on a beaucoup de bleu, ça nous permet d'être très structuré. Et je pense souvent, je dis ça parce que j'avais vu un reportage de Florence Foresti qui m'avait épaté, à quel point elle était stricte avec elle-même, rigoureuse, connaît ses textes par cœur, elle les affine jusqu'au moindre détail pour qu'en fin de compte, son jaune explose et qu'elle soit complètement à sa place en tant qu'humoriste sur scène.
Ah, c'est génial.
Et là, on a vraiment une personne qui a ces deux couleurs très marquées.
Moi, j'ai exactement une expérience assez similaire. J'ai un copain d'enfance, donc tout le monde l'aime bien, c'est le fanfaron, c'est le mec qui fait toujours plus la fête que les autres, etc. Et puis un jour, il se met à bosser dans un poste de commercial, comme par hasard, et puis il est très très bon. C'est-à-dire qu'il cartonne, vraiment, il cartonne. Et moi, je me dis, bah, il cartonne parce qu'il est hyper sympa. C'est-à-dire que c'est un mec, vraiment, c'est quelqu'un, dès qu'il arrive, on a envie de lui parler. Enfin, voilà. Et en plus, il est très chaleureux en même temps. Donc, voilà, dans ma tête, un I, et donc avec du S, et donc ça fonctionne très bien. Et puis, je n'avais pas vu depuis longtemps, mais je savais qu'il cartonnait, que je me suis dit, bah, c'est pas étonnant. Ça y est, il a trouvé sa voie, je suis content. Et puis un jour, il vient me voir au boulot, puis il me dit, bah tiens, je t'invite à manger. Et puis, il était venu avec sa voiture. Et à un moment, je ne sais plus, ouais, il ouvre son coffre pour que je mette mon manteau sur la plage arrière. Et là, je vois le coffre. Et tout était hyper, hyper rangé. Il y avait des petits compartiments, il y avait ses dossiers clients. À l'époque, on n'avait pas forcément des fichiers informatiques, machin. Hyper, hyper, hyper strict. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est un gars, il avait les deux, en fait. Et en fait, j'aurais dû m'en rendre compte parce que je savais aussi que c'était un super bricoleur. C'est un mec qui a de l'or dans les mains. Et c'est vrai que son atelier, c'était un truc. Et donc, oui, ça existe. Ça existe.
D'ailleurs, c'est marrant parce que tu me dis bricoleur. Mais si tu penses bien, ça a de la logique parce qu'on est entre l'ingénieur et le créatif.
C'est ça. Bah, lui, il est là.
Donc, tu vas être vraiment dans les deux. C'est un profil plus courant quand même, qui est le bleu et le jaune.
Ouais.
Donc, consciencieux et influent. Là où moi, j'ai mes plus de doutes sur le type de client qui va essayer de me fausser le test, c'est quand là, il y a plutôt le travers du rouge et du vert.
Ouais, D et S. C'est-à-dire dominant et stable à la fois. Dominant qui est... faut des résultats, faut qu'on avance, etc., qu'on décrive.
C'est compliqué. Je trouve la personne, elle n'a pas une bonne place dans l'entreprise, elle n'est pas au clair. Donc, elle joue un rôle. Et là, elle se fragilise elle-même. Je me posais cette question-là, en tout cas. Un peu sur de coach, plutôt.
Ouais, je comprends. Moi, j'ai un cas. Je connais une personne qui est comme ça et qui est excellent manager et qui est bien clair sur la partie où il se sent S et la partie où il se sent D. Bon, il se connaît. Je ne pense pas qu'il ait truandé les tests, lui, en l'occurrence.
D'accord. Mais après, voilà comment il le vit.
Bon, on pourra en parler des heures. En tout cas, c'est passionnant et c'est très, très intéressant. Ça fait plus d'une heure qu'on parle ensemble. On va conclure, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter. Comment on peut te contacter si on a envie de mieux te connaître ou si on a envie de faire appel à tes services?
Alors, on peut aller sur mon site.
Ouais.
Ma boîte, c'est Merci Mon Coach, donc c'est mercimoncoach.com.
D'accord.
Dessus, il y a mes coordonnées. Donc, si on veut m'écrire, c'est pareil, elodie@mercimoncoach.com. Okay. Et puis, on peut me retrouver aussi sur Profil 4, puisque Profil 4, je m'occupe de tous les programmes de formation du site.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il y a besoin de faire le lien.
D'accord, ok, très très bien. Et puis, j'ai vu que tu t'étais inscrite sur le forum.
Oui, bah, j'ai mis du temps. Mais
ouais, ouais,
bah
c'est bien. Non, non, mais c'est bien. C'est super. Hein, voilà. Le forum, il commence vraiment à bien se développer, à décoller. Ça, c'est vraiment. Je suis hyper content de ça. Ça, j'aimerais bien que ce soit encore plus, qu'il y ait encore plus d'activités. Je vais m'y employer. Et j'avais une dernière question. Excuse-moi. Mm-hmm. Hein. Est-ce que tu veux donner ton avis sur la formation disque interaction? Parce que j'ai vu que tu étais.
Oui, oui, je peux donner mon avis parce que je l'ai fait effectivement pour avoir une autre vision de moi de l'analyse du disque en fait. C'était pour ça que je me suis inscrite.
D'accord.
Écoute, je l'ai trouvé très bien par sa clarté en fait. Et surtout, ce que j'apprécie dans ta formation, c'est tout de suite qu'on met des actions derrière.
Ah ouais.
Donc voilà. Ouais. Donc c'est pas pour rien en fait, je trouve que c'est très utile. C'est que tu as bien décortiqué, il y a une bonne analyse de chaque profil.
Ouais.
Donc, ses domaines de préférence, ok, en termes de communication, ses attentes. Je crois qu'il y a les outils de communication qui préfèrent.
Ouais.
Et derrière, tu réponds tout de suite en disant qu'est-ce qu'il faut faire.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, on reste pas que dans ok, bah il est comme ça. Bah, je fais quoi avec ça.
Ouais.
Parce qu'il y a pas mal de formations, on a juste la cartographie de la personne et en fait, on n'a pas de clé.
Ah, ce que je dis aussi, et c'est souvent ce que je fais dans mes formations, c'est vous êtes pas sûr, mais c'est pas grave. Allez-y. Parce qu'en fait, vraiment, je crois qu'on apprend en faisant. Et se tromper un peu sur un profil, puis faire une gaffe, c'est pas très grave au final. T'as appris un truc sur la personne. Et de toute façon, des gaffes, t'en fais déjà plein quand tu connais pas son profil. Donc, et moi, je me plante. Hein, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, bah, je pense que t'es comme ça, mais je pense que j'aurais peut-être tenté deux, trois trucs. J'aurais dit, ah non, je me suis planté et j'aurais réajusté. C'est quand même ça, la communication, c'est un ajustement mutuel. Donc, si tu passes jamais à l'action, si t'attends d'être le super pro en 10 pour passer à l'action, tu vas jamais passer à l'action.
Exactement.
Bon, bah, c'est super sympa comme retour. C'est sympa. Ouais, les formations, c'est formaction. C'est pour ça, ouais. J'essaye toujours.
Oui, mais justement, je trouvais ça très bien. Ouais. Je trouvais ça très bien dans la pédagogie. Et puis, je crois que tu avais mis une cartographie, une fiche de cartographie aussi pour ces équipes.
Ouais.
Donc ça, c'est ce que je fais aussi dans les formations plutôt de management.
Ouais.
Où je les aide justement à positionner
leur équipe dans la carte. Ouais.
Exactement. Et quelles sont les actions derrière et où est-ce qu'ils en sont en phase, par exemple, si on fait aussi la conduite du changement. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est un complément.
Mmh.
Il y a compétences, motivation et la personnalité.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Cet outil-là, il est vachement bien, même quand tu fais du recrutement, même quand tu dois confier des responsabilités, même quand tu n'es d'ailleurs pas manager hiérarchique et que tu fais un projet. Parce qu'en fait, dans la vie d'un projet, tu as un moment où tu vas devoir mettre en première ligne plutôt des C, plutôt des I, plutôt des S. Donc, c'est intéressant aussi, ça, de donner un peu du pouvoir aux personnes qui... tu sais, dans un projet, par exemple, tu vas te retrouver dans une ornière et puis on ne s'en sort pas, bah, c'est le moment d'activer les dés parce qu'eux, ils vont faire sortir l'équipe de l'ornière et puis quand ça va aller trop vite, tu vas lancer tes C pour qu'ils bordent le terrain et qu'on ne parte pas trop en live, quoi. Enfin bref, on pourra en parler des heures. En tout cas, je te remercie beaucoup.
Exactement.
Je te remercie infiniment pour cette interview. C'était une conversation épatante. Merci aussi pour le jugement sympa sur la formation disque interaction. C'est gentil. Et puis, bah, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être quand ton livre sortira, que tu me fasses un signe.
Bah, avec plaisir. Ouais.
Ça sera l'occasion.
Normalement, en janvier, on croise les doigts parce que ça fait déjà un an que j'ai fini de l'écrire. Donc,
là, c'est dur.
Ça sort, quoi.
Ouais,
et puis, on a toujours des choses qu'on pourrait modifier, c'est ça.
Ah, bah, je sais.
C'est que maintenant, on se dit, oh, ça y est, c'est fait. C'est...
Ouais. Moi, j'ai pas franchi le pas. Tu vois, moi, j'en ai écrit trois, je crois, qui sont sur le site. Puis j'en ai un quatrième qui est en préparation. Et en fait. Tu vois, moi, je les lance alors qu'ils ne sont pas forcément finis. Puis, tu sais, il y a le en fait, je ne connais plus le nom du fondateur de LinkedIn, j'ai oublié. Mais il a dit un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Il a dit, si vous n'avez pas un petit peu honte de votre produit, au moment où vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Donc voilà, je me dis, je lance les trucs et puis je les modifierai.
C'est un peu ça, ouais. C'est...
Une fois que tu as imprimé le truc, boum, c'est figé, quoi, effectivement. Mm. Bon, en tout cas, merci.
Avec plaisir.
Merci infiniment. Et puis, avec grand plaisir, on te retrouvera donc peut-être en janvier. dès que ton livre sort. Et puis, je mettrai tes coordonnées soit en descriptif du podcast, mais je les mets aussi sur le forum. Parce que y a quelquefois, tu sais, en dessous du podcast, dans le descriptif, il n'y a pas assez de place. Donc, je mets un lien vers le forum et puis ça incite les gens à échanger, continuer la conversation qu'on a eue ensemble sur le forum.
Merci
beaucoup, Élodie. À bientôt.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Merci.
J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À bientôt. Salut.
Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah, en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux quand un épisode vous plaît à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.